Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 19 avril. Le réveil culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 à la radio, mais quand vous voulez, si vous le voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast, émission réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Éric Villenfin, émission coordonnée toujours avec la complicité d'Anaïs Isbert, et vous le savez peut-être, tous les jeudis, on parle de polar. Et aujourd'hui, on va parler d'un polar qui se passe à Hollywood et de nos jours, c'est-à-dire tout en résonance avec l'affaire Weinstein. Musique douce, drogue dure, Hollywood, l'envers du décor, version actualisée. Les starlettes sont toujours exploitées, mais les méchants, ce sont des prédateurs sexuels. Tout le monde aime Bruce Willis. C'est le titre du roman édité par La Martinière et son auteur Dominique Maison fait le réveil culturel aujourd'hui.
Le réveil culturel. Jeudi, polar.
Bonjour Dominique Maison.
Bonjour.
Tout le monde aime Bruce Willis. C'est donc le titre de votre dernier polar. La dernière fois qu'on s'était vu, on était dans un autre cadre. C'était la France d'avant-guerre, la France des grands feuilletonistes, tout
c'est
en hommage.
C'est une autre forme de culture populaire, oui, ouais. Effectivement.
Et là, c'est les États-Unis. Particulièrement Hollywood, hein, parce que c'est un roman qui se passe à Hollywood, mais il est écrit aussi d'une manière hollywoodienne. Et j'ai vraiment l'impression que vous l'avez écrit très très vite, parce qu'il est tout en résonance avec l'affaire Weinstein qui est en train de prendre des proportions énormes.
Alors c'est très très drôle. En fait, l'affaire Weinstein s'est passée au milieu de l'écriture en fait. Et effectivement, il y a une résonance avec déjà la première partie du livre qui était écrite sans que j'aie connaissance de l'affaire forcément. Et donc je l'ai intégrée. J'ai intégré ce qui se passait à la deuxième partie du roman. Mais soit je suis un prophète, soit j'ai des dons de visionnaire. Mais la première partie était écrite avant l'affaire Weinstein. Mais c'est indiscutablement en résonance.
Ouais. Alors, mais pourquoi vous avez choisi justement ce cadre? C'est-à-dire l'envers du décor hollywoodien, c'est un exercice qui a été pratiqué depuis des années, des décennies, aussi bien par des écrivains, par des réalisateurs. Vous avez décidé de reprendre cet exercice en quelque sorte, mais de l'actualiser.
Alors oui, je suis un fan des livres et des films qui traitent de l'envers du décor du cinéma, The Player d'Altman ou les Glamoramas de Bret Easton Ellis. Enfin, tout ça fait partie de mes références et j'ai toujours aimé ce sujet. Donc je me suis mis au défi d'écrire un roman contemporain et un roman américain pour changer radicalement effectivement avec celui que vous aviez évoqué avant, qui est un roman parisien du début du siècle. Et je suis venu naturellement avoir envie de traiter de cet univers. J'avais envie de grands espaces, j'avais envie de plaines écrasées par le soleil, j'avais envie d'Hollywood, j'avais envie de Cadillac, j'avais envie de Sunset Boulevard. C'est assez naturel, non? C'est bien tout ça.
Vous êtes allé sur place pour écrire ce polar?
Non, je suis
maison ou juste... Justement, vous avez laissé votre imagination vous guider. C'est le Hollywood tel que vous l'imaginez.
Voilà. Alors, j'y suis allé il y a quelques années, mais très honnêtement, l'influence était cinématographique. Donc, j'ai revu Mulholland Drive, j'ai revu Boulevard du Crépuscule, j'ai revu The Player, j'ai vu Die Hard, évidemment, le premier qui se passe à Los Angeles. Je me suis rebaigné dans la culture cinématographique de Los Angeles. C'est important. De toute façon, c'est une ville qui ne vit que par ça, qui ne vit que pour ça. Et finalement, le fantasme de Los Angeles est tout aussi intéressant que le Los Angeles réel. Donc mon livre parle du fantasme, du Los Angeles fantasmé de cinéma, plus que du réel qui n'est pas l'objet du livre.
Elle s'appelle Rose Century, elle a 20 ans, c'est ouais. Le personnage central de votre roman, et le mot que l'on puisse dire, c'est qu'on se pose la question, mais de quoi il va parler cet auteur, puisque dès les premières pages, on fait la connaissance avec une superbe vedette d'Hollywood. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une descente aux enfers. C'est encore plus terrible que ça.
C'est-à-dire elle y est déjà.
Elle y est déjà. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle est star malgré elle, mondialement connue malgré elle. Et puis, très vite, elle va se rendre compte, et le lecteur avec elle, qu'elle n'est pas du tout libre de ses mouvements et qu'elle n'a plus un droit de regard sur sa vie.
Bah, je me suis souvent demandé ce qui poussait aux conduites extrêmes qu'on a pu observer Britney Spears, Lindsay Lohan, Rose McGowan, Miley Cyrus, toutes ces jeunes vedettes hollywoodiennes à qui a priori on prête, elles ont la beauté, la jeunesse, la célébrité, l'argent, la gloire. Qu'est-ce qui les pousse à être si terriblement malheureuses? C'est assez romanesque comme sujet aussi. Donc bah, ma Rose, elle est en plein là-dedans. C'est qu'a priori, vu de l'extérieur, vu de loin, elle a toutes les raisons pour être la femme la plus heureuse du monde. Mais le fait est qu'elle a une vie totalement dysfonctionnelle, parce qu'elle n'a pas choisi cette vie-là, parce qu'elle a un environnement familial épouvantablement toxique, parce qu'elle est manipulée, comme on manipule une gamine de 20 ans qui vaut des millions de dollars par sa simple présence. Tout le monde a intérêt à l'utiliser, tout le monde la prend pour une poule à millions qui ramène de l'argent à ce qu'elle fait, et donc sa vie là-dedans, sa vie n'a finalement que l'espace qu'on lui laisse pour sa propre vie. Il y a pas si longtemps une star de la K-pop, ces vedettes de la chanson
sud-coréenne,
qui s'est suicidée parce qu'il était à bout du burn-out le plus complet, parce que ça faisait des années qu'on le trimballait d'hôtel en hôtel, de salle de concert en salle de concert, qu'il n'était devenu qu'une espèce de marionnette d'intérêt économique, et que malgré toutes les apparences de succès et de bonheur qu'il était obligé de donner en permanence, sa vie était juste pourrie. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de stars de Hollywood qui ont eu des débuts extrêmement difficiles. C'est un milieu assez impitoyable, hein, sous les paillettes. Hein. Pour arriver au sommet, je pense qu'il faut concéder d'énormes sacrifices, et que leur vie privée est souvent complètement dévastée par ces sacrifices de début de carrière. Donc Rose est en plein là-dedans, effectivement.
D'autant plus qu'elle n'est pas non plus très simple comme fille, cette Rose Santoli.
Non, elle trimballe un passif. Bah, elle a pas grandi dans des conditions faciles. Vous voyez la famille qui est décrite. Son père, qui est un espèce de tyran abusif,
politicien
très riche, politicien tordu, tyrannique, qui a écrasé, qui a complètement asséché sa mère sous son poids et sous sa férule et son autorité. Et Rose se débat, elle a 20 ans, mais elle se débat encore comme une adolescente, quoi, hein, qui essaye de s'émanciper de ça.
Sa mère n'est pas mieux, d'ailleurs.
Non, bah elle, alors c'est un peu elle vit sur ces quelques heures de gloire, parce qu'elle a eu une petite carrière cinématographique dans les années 80, et elle vit encore dans le souvenir de cette époque-là, et elle a reporté toute sa frustration de ne pas avoir été au bout de cette carrière sur Rose, en l'emmenant dès le plus jeune âge faire tous les castings à ce qu'elle y est arrivée, hein, elle l'a menée au firmament d'Hollywood, mais en la manipulant dès qu'elle avait 7 ans, elle n'a pas d'autre choix que de se lancer dans cette carrière-là. Elle ne l'a jamais choisie, elle pourrait être très heureuse de le faire.
Mais et encore, on peut dire qu'on ne choisit pas sa famille, mais là, le personnage le plus horrible de votre roman, Dominique Maison, c'est bien l'agent.
Qu'un monstre de cynisme, oui. Bah alors, je pense honnêtement qu'il est pas loin d'être une figure qu'on doit pouvoir rencontrer dans ce métier. C'est-à-dire, il pense à son intérêt économique, il est en permanence dans les jeux de pouvoir, dans les jeux d'influence. Il fait passer ses intérêts économiques avant tout le reste. Mais ça me paraît assez naturel. On brasse des millions là-bas. Hein. Je pense que la place des sentiments est assez réduite.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand une comédienne qui est très connue, qui est engagée dans super production, même si les titres de films sont genre Robot Apocalypse 1, 2, 3, nous donnent un peu à l'aperçu de quel genre de production cinématographique il est question dans votre univers, dans votre polar, Dominique Maison. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette actrice décide de tout plaquer?
Ah bah, on ne peut pas lui autoriser ça, c'est complètement impossible, pour plusieurs raisons, parce qu'elle est engagée elle a plein de films en cours de pré-production qui pèsent des millions de dollars, et il n'est pas question qu'elle dévisse, parce que son père a des ambitions électorales et qu'il n'est pas question qu'elle dévisse publiquement et qu'elle vienne contrarier ses ambitions. Donc on organise, mais c'est assez commun, j'ai pensé à cette histoire, vous savez, il y a eu une fille, Kennedy, qui était un peu différente, un peu divergente, et qui embarrassait un petit peu, qu'ils ont mis de côté et qu'ils ont même fait lobotomiser pour se débarrasser d'elle, et qui a passé le restant de sa vie, elle était institutrice, je crois, au départ un peu schizophrène, sans doute pas très équilibrée, mais ils l'ont lobotomisée, mise de côté complètement, de manière la plus épouvantable et cynique, parce que elle gênait dans la photo de famille, quoi.
Et puis surtout parce qu'à l'époque on pouvait pas lui trouver un clone.
Oui. Alors c'est oui.
J'en dirai pas plus. Non, voilà. Votre roman, bien sûr.
voilà. Il y avait des développements qui n'étaient pas possibles à l'époque, qui sont possibles aujourd'hui. Et je suis pas loin de penser que c'est tout à fait envisageable, ce genre de choses, en fait.
Ça s'appelle Tout le monde aime Bruce Willis. Pourquoi?
Alors, le Bruce Willis s'est pris la partie pris pour le tout, en fait. Tout le monde aime les héros d'action, tout le monde aime le cinéma hollywoodien, quand il est bien fait, quand il est drôle, quand il est vivant, quand il est divertissant. Bruce Willis s'est pris en symbole de tout ça. Et je voulais un contrepoint aussi, parce que le livre est très dur sur le milieu hollywoodien, et très dur sur le cinéma, et on y a tous, il nous amène énormément de plaisir et nous amène énormément de divertissement au quotidien. Je voulais qu'il y ait un petit contrepoint et une figure positive dans cette histoire qui est Bruce Willis, qui apparaît vraiment dans le livre à plusieurs reprises et qui est vraiment, pour le coup, voilà, qui est sans tâche.
Pep talk. I can't tell you how to run your life, girl. All I know is life is passing by. Let's get going, this ain't no rehearsal, yeah. Don't be scared to crack a little smile. You're alright, you're okay. Need a pep talk.
Bruce Willis, chanteur. Oui, ça a existé.
Il a tous les talents.
C'était en 1989, et c'est bien sûr pour parler aussi de ce personnage qui a, vous venez de le dire, Dominique Maison, qui a dans votre polar édité par La Martinière et qui a pour titre Tout le monde aime Bruce Willis, le beau rôle, c'est-à-dire que vous nous rappelez à travers Bruce Willis effectivement le bon côté d'Hollywood, mais sinon l'intrigue en elle-même, le roman noir qui est le vôtre, qui est le dernier de vos polars, c'est plutôt une affaire très sombre autour d'une jeune fille de 20 ans qui décide de tout plaquer alors qu'elle est au sommet de sa carrière de comédienne, mais bon, voilà, elle va pas pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis, vous prenez tout le temps pour décrire les milieux américains. Et là, ce n'est plus Hollywood, hein. Là, on est dans des univers réactionnaires, dans des sectes qu'on croyait disparues depuis des lustres. Vous expliquez comment les relations de pouvoir peuvent passer, y compris justement par ce que l'affaire Weinstein nous a révélé, c'est-à-dire des chantages odieux avec des producteurs qui se comportent comme des prédateurs sexuels. Mais il y a aussi la drogue. La drogue est très très présente dans l'univers de Rose, dans la vie de Rose, qui a perdu beaucoup de ses amis d'ailleurs à cause de la drogue. Donc.
Ah bah ça, oui, elle vit avec pas mal d'excès et pas mal de mal-être. La drogue est assez régulièrement une compagne dans ces cas de figure psychologique. Elle fait la fête, elle s'oublie, elle essaye d'oublier pas mal de choses et elle déborde assez régulièrement, y compris sur l'usage de stupéfiants. Je veux bien le reconnaître. Et après, on les utilise un peu contre elle aussi, effectivement. On utilise la drogue pour la mettre un peu hors jeu, effectivement. Ça, c'est dans la partie où elle disparaît, où elle n'aurait pas utilisé ces stupéfiants-là, ça ne lui serait sans doute pas arrivé. Mais c'est un peu difficile de pas dévoiler ce qui se passe à ce moment-là. Je préfère que le lecteur le découvre en lisant.
Non, mais disons que lorsqu'elle se retrouve dans un monde tout à fait parallèle, vos descriptions, Dominique Maison, se basent sur des faits réels, c'est-à-dire ou du moins sur quelque chose de documenté.
Pour la partie mexicaine, non, la secte n'existe pas. C'est une pure invention. Hein. Le contexte dans lequel cette secte existe, sur de l'autre côté de la frontière mexicaine, pour le coup, le Rio Negro, c'est documenté. C'est une région du Mexique qui existe vraiment, où il y a vraiment des villages qui ne sont habités pratiquement exclusivement que par des passeurs, qui sont des véritables trafiquants d'êtres humains. Il n'y a pas d'autre mot. Toute la partie à Tijuana est assez documentée et assez réelle. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la partie la plus glorieuse, c'est sans doute la partie du monde où la transition en 500 mètres entre l'hyper-richesse et l'opulence de San Diego et les maquiladoras et les zones les plus déshéritées de Tijuana est la plus brutale. C'est assez symbolique hein, sur notre monde. Hein. C'est sans doute l'endroit où les deux mondes se collisionnent le plus brutalement et le plus frontalement. Nous, là, il y a quand même l'intervalle de la Méditerranée. Là-bas, ça se joue à 500 mètres de distance. Hein. Vous naissez à San Diego ou à Tijuana, vous n'avez pas tout à fait la même existence. Avec tous les côtés extrêmes que ça peut avoir, le Colorado qui disparaît à Las Vegas, il n'y a plus une goutte d'eau qui arrive au Mexique, les enfants qui vivent à côté des usines d'une marque de soda que je ne citerai pas, qui assèche complètement les nappes phréatiques et à qui on fait boire du soda en compensation de l'eau qu'il n'y a plus et qui deviennent obèses à l'âge de 8 ans. Toutes ces choses, voilà, la frontière américano-mexicaine, elle est au centre de beaucoup de fantasmes, de l'actualité, mais elle est assez fascinante. Oui.
Alors vous disiez au préambule, Dominique Maison, puisqu'on parle de ces producteurs prédateurs sexuels, que vous étiez en train d'écrire ce roman noir quand a éclaté l'affaire Weinstein. Comment cette affaire a-t-elle été une source pour alimenter le propos qui était déjà lancé, c'est-à-dire la description d'Hollywood?
Je pense que c'est un masque qui est un peu tombé aux yeux de tout le monde. Moi, j'avais pas trop de doutes sur le sujet, mais le côté progressiste, bienveillant, amazing, tout le monde est ami d'Hollywood, ce côté, cette industrie extraordinairement souriante et polissée, la façade est tombée, on voit que c'est un monde de lutte de pouvoir, d'influence assez terrible, et que...
Non, mais vis-à-vis des femmes, par exemple.
Ah, vis-à-vis des femmes, oui, bah oui, les statistiques sont assez sidérantes quand on y pense que seulement 4% des films hollywoodiens sont réalisés par des femmes et que ça va même au-delà au niveau des dialogues, que seulement 27% des dialogues des films sont donnés à des personnages féminins, toi des personnages masculins. On est sur un milieu qui, sur ce point de vue-là, est extraordinairement réactionnaire. Les chiffres sont assez sidérants. Je pense que c'est pas équivalent en France.
Alors, ce scandale, cette prise de parole des femmes, cet éveil des consciences, cette affaire qui a quand même bouleversé le monde entier, ça a traversé la planète. Est-ce que ça a eu un impact sur l'écriture de votre roman Tout le monde aime Bruce Willis, Dominique Maison?
Alors, je l'ai intégré, ça n'a pas changé le schéma de l'histoire qui était déjà écrit, mais ça, effectivement, ça lui donne... Le personnage de Rose devient assez emblématique de cette histoire, finalement. Je l'avais appelé Rose avant que ce soit Rose McGowan qui soit à l'origine de l'histoire, en plus. Donc, vraiment, il y a des résonances...
Je me suis vraiment posé la question.
Ah non, mais il y a vraiment des résonances très étonnantes. Hein. J'étais vraiment à la moitié de l'écriture, dans la partie mexicaine, pour le coup, quand l'affaire Weinstein a commencé. Le personnage s'appelait déjà Rose, et voilà. Et tout ça est survenu. Donc, évidemment, ça donne un éclairage à des choses qui se passe avant. C'est pas le livre pas tant sur une question de prédation sexuelle, hein. C'est plus sur un destin volé, voilà, et le côté impitoyable de la mécanique hollywoodienne qui utilise les individus comme de la chair pour sa machine, pour alimenter sa fournaise. La prédation sexuelle fait partie du panorama, hein. Mais combien de personnes voient leur vie brisée à Los Angeles en espérant intégrer l'industrie du cinéma et finissent par deux jobs pourris en job pourri, voilà. Donc, il y a des destins brisés à Los Angeles, je pense qu'il y en a. Il y en a au-delà des actrices qui ont connu ces passages épouvantablement difficiles avec cet individu répugnant, des destins brisés à Los Angeles, je pense que c'est la ville du monde où il y en a plus. Hein. Il y a un dicton américain qui dit que si vous penchez la carte des États-Unis, tout ce qui dégringole, qui n'est pas bien accroché, finit à Los Angeles. Ou dans le Pacifique. un peu moins de chance, mais oui, c'est la ville de tous les excès, de tous les destins brisés, oui.
Est-ce que l'idée de parler de personnages interchangeables ou factices, c'est parti aussi d'une envie de décrypter le cinéma, l'industrie du cinéma, l'usine à rêve qu'est Hollywood?
Bah, on est dedans, c'est assez amusant de voir qu'avec les CGI et les motion capture, aujourd'hui, ils sont tout à fait capables de faire des films sans acteurs où on est persuadé qu'il y en a un. Enfin, dans le dernier La Guerre des Étoiles, il y a un personnage qui n'est pas réel, enfin, voilà, qui est recréé sur ordinateur. Et de plus en plus, ils sont capables de faire ça. Et la tentation, les films de se passer de vedettes capricieuses pour les remplacer par des personnages animés, c'est une vraie crainte que doivent avoir les syndicats d'acteurs aux États-Unis et que, bon, en France aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est pour très bientôt, hein, parce que ça, là, technologiquement, c'est déjà assez bluffant ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Il y a des images où vous pouvez voir quelqu'un parler pendant plusieurs minutes en vous demandant si c'est une véritable personne ou s'il a été recréé sur ordinateur. Et donc les acteurs un peu capricieux peuvent se faire du souci, oui.
Est-ce que vous auriez pu écrire le même roman, Dominique Maison, c'est-à-dire la même intrigue en déplaçant le sujet en France, c'est-à-dire en parlant plus du milieu du cinéma français que d'Hollywood d'aujourd'hui?
Alors sur la relation entre Rose et Marianne, que je laisse les lecteurs découvrir, j'avais vraiment des images de David Lynch en tête. J'étais vraiment dans l'ambiance de Mulholland Drive, j'étais vraiment là-dedans. Cette ambiance-là est difficilement transposable en France. Il y a la lumière de Los Angeles qui baignait mon imaginaire quand j'écrivais le roman. Peut-être dans le sud de la France, et pourquoi pas. L'intrigue est transposable. Hein. Il n'y a pas de doute.
Hein. Ici, comme là-bas, le cinéma blanchit l'argent sale et l'argent sale noircit le cinéma.
Alors là-bas, c'est une évidence hein, que les liens entre les barons des cartels mexicains et l'industrie du cinéma est bah voilà est difficilement contestable hein, qu'il y ait de l'argent sale qui soit déversé sur Hollywood. Ce sera peut-être le prochain scandale qui viendra salir la réputation de l'usine à rêve, mais que des barons de la drogue aiment bien inviter des stars de cinéma à dîner et qu'ils aiment bien mettre de l'argent dans les films, qu'ils aiment beaucoup les films qui parlent d'eux. Ils sont assez narcissiques sur le sujet, puis il y en a beaucoup en ce moment. Hein, c'est devenu un sujet assez populaire.
Mais ça, c'est quoi? C'est du narcissisme inconscient ou c'est le summum du cynisme?
C'est un peu les deux, ils sont bling-bling, ils aiment bien qu'on les flatte, ils aiment bien qu'on construise leur légende, ils aiment bien ça, c'est très valorisant d'avoir de baigner dans le milieu des vedettes de cinéma. Tout le monde aurait envie de côtoyer un peu ces gens-là, de faire partie de leur univers et d'avoir un moyen de contrôle sur eux, ce qui est aussi le sujet de l'appui, enfin, qui est aussi, je pense, un des problèmes principaux psychologiques d'Harvey Weinstein, c'est que, autant qu'une affaire sexuelle, ce qui en était une indiscutablement, je pense que c'est une question de pouvoir se dire qu'on a la capacité de plier à sa volonté les personnes les plus désirables, les plus belles du monde, les plus connues du monde, les plus affichées du monde, et de se dire que ces personnes, on les tient dans le creux de notre main, à force, on en fait ce qu'on veut, quel sentiment de puissance il devait avoir, ce sale type, ça doit être euphorisant pour lui, c'était son moteur, autant que la perversion, que les actes mêmes, qui finalement, il aurait pu appeler des prostituées pour ça. Mais,
Alors, pour terminer, dernière question autour de votre roman noir, c'est plutôt un roman noir, tout le monde aime Bruce Willis, Dominique Maison et du personnage central, Rose Century. S'il fallait remplacer au pied levé Rose Century, qui aurait pu la remplacer? Plutôt une comédienne, chanteuse du genre Britney Spears ou plutôt Madonna? Comment vous l'imaginez?
Non, j'étais plus sur... Ah, si on peut rêver Emma Watson, je suis plus par là, voilà, ou Kristen Stewart, voilà, je suis plus par là. Elle est un peu plus sophistiquée, peut-être que plus discrète que Madonna ou Britney Spears, qui sont exubérantes, avec beaucoup de charme aussi, mais qui sont des personnalités un petit peu plus colorées. Mais elle est aussi du caractère, mais physiquement, c'est pas comme ça que je l'aurais vue, oui.
Je rappelle que votre précédent polar, et vous étiez venu ici nous en parler. Dominique Maison, On se souvient du nom des assassins, sort, c'est un trailer.
Chez Point Seuil, oui.
Chez Point Seuil, entre le moment où il était sorti, vous êtes venu en parler, et aujourd'hui que sort la version poche, vous avez décroché le prix Griffe Noire du meilleur roman historique, parce qu'effectivement, ça parlait de la France d'avant-guerre. Tout le monde aime Bruce Willis, et votre dernier roman aux éditions La Martinière, et on est dans le Hollywood d'aujourd'hui. Est-ce que votre prochain roman, c'est un retour en Europe, en France, ou c'est encore une expédition dans le temps et dans l'espace?
Non, ça devrait être en France contemporain, ça devrait être plus noir, je pense. Mais j'en suis encore aux travaux préparatoires à l'écriture, donc je m'autorise encore de changer tout au tout si jamais l'inspiration m'emmène ailleurs.
Alors, il y a quoi? Un fait divers, une sensation, une envie de découvrir un pays, une époque?
Alors,
chez vous, Dominique Maison?
C'est des scènes, souvent. Des scènes que j'ai envie d'écrire, qui m'amènent à des personnages, et je construis l'intrigue autour de ça. Voilà. J'avais très envie de soleil, ce que je vous disais au début sur celui-là, la scène du début dans la station-service, la scène de la rencontre de nuit dans la villa, dont je ne peux pas trop parler. C'est les scènes qui me donnaient envie de me lancer dans l'écriture de celui-là. Pour le prochain, j'ai quelques scènes aussi qui commencent à me travailler, donc ce sera, voilà, le reste est à construire.
Ça dure longtemps, cette période de gestation, avant de passer à l'écriture, avant d'être sûr de tenir son sujet, son intrigue, son roman.
J'embrasse plusieurs, hein. Il y en a plusieurs que je peux abandonner.
Vous écrivez plusieurs.
Non, les idées, ah, oui. Je peux avoir plus 3-4 projets de livres qui me travaillent pendant un mois ou deux et que j'abandonne. Et finalement, il y en a un qui finit par germer. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y en a un qui finit par rester plus longtemps que les autres et où l'on l'urgence de l'écrire finit par être assez forte pour que je m'y mette. Tant qu'il n'est pas commencé, une fois que j'ai commencé, après je le lâche pas, parce que sinon c'est déjà bien assez difficile. Mais avant, ça peut changer, ouais. Je peux traîner une envie pendant plusieurs mois et finalement elle ne germe pas, ouais.
Et vous voulez rester dans ce genre ou sous-genre, d'après certains, c'est-à-dire le polar, le roman noir, le thriller, Dominique Maison?
Pour le prochain, oui. Après, je m'interdis rien. Pourquoi pas faire de la littérature blanche un jour, ou un essai, ou ce qui est très à la mode en ce moment, d'enquêter sur des histoires réelles et des personnages réels. Ça pourrait venir, il y avait une idée qui tournait autour de ça, donc ça pourrait être ça dans un avenir à moyen terme, on va dire. Mais le prochain, ça devrait encore être un polar, je pense.
Eh ben, merci beaucoup d'être passé ce matin, Dominique Maison.
Mais merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Tout le monde aime Bruce Willis, c'est le titre du dernier roman de Dominique Maison, c'est édité par La Martinière.